Le message que vous allez écouter est tiré de la série d'études de la Bible intitulée « L'Église secrète » du Dr David Platt, pasteur de l'église Brook Hill aux USA.
Voyage dans le Nouveau Testament. Les évangiles. Les difficultés pour lire les évangiles. Les évangiles. Nous avons des difficultés. Il existe des différences inexpliquées. Voyez-vous, ces trois cas où Jésus se tenait debout devant le grand prêtre et chacun d'entre eux utilise des mots différents. Donc, les récits sont différents. Comment est-ce possible, puisque c'est le même événement? Des différences inexpliquées. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur lui dit « Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 63-64. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Marc 14, 61-62. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Et si je vous interroge, vous ne répondrez point. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Luc 22, 67-70. Contradictions apparentes. Quand vous lisez la conversation entre Jésus et ses disciples à propos du figuier dans Marc 11 et dans Matthieu 21, il y a quelques différences, quelques contradictions, semble-t-il. Alors, comment expliquer cela? Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Marc 11, 12, 14, 20, 25. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles et il dit « Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent « Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21, 18, 22. Ligne directrice pour la lecture des évangiles. Voici ce que nous devons réaliser en ce qui concerne les évangiles. Premièrement, les évangiles décrivent tous la même personne. Ce sont des histoires de Jésus, mais non seulement de lui, car aucun auteur n'a dit « je vais écrire une biographie de Jésus ». Au lieu de cela, il s'agit d'une biographie intentionnelle, une biographie avec une raison d'être, une description de Jésus qui est écrite pour un peuple spécifique avec un but précis. Cela nous amène à deux composants à l'œuvre dans les évangiles. Vous avez les enseignements de Jésus et des histoires sur Jésus. Deuxièmement, les évangiles parlent de la même personne, mais sont écrites par des auteurs différents. Pourquoi avons-nous quatre évangiles ? Eh bien, c'est parce que Dieu a inspiré quatre hommes et ceux-ci ont écrit pour quatre communautés différentes. Probablement Marc, que nous avons mentionné lors de l'étude sur le Nouveau Testament, a écrit le premier. Ensuite, l'évangile a été presque réécrit dans certains aspects par Matthieu et Luc, car il y a pas mal de parallèles. L'évangile de Jean, par contre, est différent des autres évangiles. Vous avez ces trois évangiles similaires, chacun écrit par un homme différent et chacun avec un but différent. Vous avez aussi deux paramètres qui travaillent ensemble dans les évangiles. Vous avez le cadre historique de Jésus au 1er siècle, mais vous avez aussi le contexte historique pris en compte par les auteurs. Pourquoi Marc écrit-il de cette façon ? Pourquoi Matthieu écrit-il de cette façon ? Pourquoi Luc écrit-il de cette façon ? Troisièmement, ceci nous amène à la troisième vérité. Les évangiles ont été écrits pour trois publics différents. Il y a trois grands principes à l'œuvre dans les évangiles. Le premier est la sélectivité. Par cela, je veux dire que les auteurs n'ont pas mis tout ce qu'ils savaient de Jésus. Jean a même dit « Si tout ce que je sais sur Jésus avait été inclus, le monde n'aurait pas été assez grand pour contenir tous les livres. » Alors, ils ont sélectionné certaines choses précises. Il y a aussi l'arrangement. L'organisation de chaque évangile est différente. Cela fait partie de l'image du figuier que nous avons examiné. Une partie de l'évangile peut être chronologique, une autre partie ne l'est pas. Quatrièmement, ensuite, les adaptations. Les auteurs n'ont pas adapté la vérité aux histoires, mais ont adapté chaque histoire en rapport avec la vérité. Et donc, vous voyez ces principes au travail, la sélectivité, l'adaptation et l'arrangement. Les directives pratiques pour lire les évangiles. Suivez ces quatre étapes. D'abord, observez leur habitation. Que voyez-vous ? Je veux vous encourager, quand vous lisez les évangiles, de penser plutôt histoire ou discours. Quand vous lisez ces histoires ou ces discours, posez-vous des questions. Ce n'est pas forcément paragraphe par paragraphe, comme pour les épîtres, mais plutôt histoire par histoire ou discours par discours. Ensuite, vous mettez ensemble ces histoires et ces discours, collectivement, et vous cherchez des connexions. Regardez l'évangile selon Luc, chapitre 10, la parabole du bon samaritain. Vous avez d'abord la parabole, et ensuite vous avez la conversation de Jésus avec Marie, assise à ses pieds, tandis que Marthe est au travail. Au chapitre 11 de Luc, Jésus donne un enseignement sur la prière, et si vous regardez bien, vous voyez que ces histoires se connectent ensemble. Chaque fois, Jésus établit des relations avec des personnes dans le besoin. Mais nous voyons aussi des gens qui écoutent le Christ. Et pour terminer, il y a des relations établies avec Dieu le Père par la prière. Voyez-vous les connexions ? Recherchez aussi les formes littéraires spéciales. Souvent, il se sert des exagérations. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Matthieu 5, 29. C'est une exagération. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. C'est une exagération. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Marc 10, 24-25. Maintenant, certaines personnes ont accepté cette interprétation qu'il eût existé au 1er siècle une porte appelée le chat d'une aiguille. Elle était si petite qu'il était très difficile pour un chameau d'y passer pour entrer dans la ville. Si vous avez entendu cela, oubliez-le, car ce n'est pas vrai. Le but de l'histoire n'est pas « c'est difficile de passer ». Le but, c'est que le chameau ne peut pas du tout passer par le chat d'une aiguille. C'est impossible. Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il est impossible pour ceux qui mettent leur confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut mettre votre confiance en Christ en dehors des possessions matérielles. Donc, examinez les exagérations. Cherchez aussi l'ironie. Lorsque quelque chose se passe, ce qu'elle communique contraste avec ce qui se passe réellement. Vous avez une histoire pour illustrer cela dans Luc 12. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc 12, 16, 21. Réfléchissez à cela. Quel est l'exemple suprême de l'ironie rapportée par les évangiles du Nouveau Testament ? C'est bien sûr la vérité d'un homme sans péché qui prend sur lui les péchés du monde entier. Les questions rhétoriques. Questions qui montrent une vérité au lieu de chercher une réponse. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant ? Matthieu 5, 46. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Matthieu 6, 27. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Marc 4, 40. « Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ?»« Non, vous dis-je, mais la division. » Luc 12, 51. Jésus se servait des questions rhétoriques. Des parallèles. Vous voyez des lignes et nous allons en parler plus profondément quand nous étudierons la poésie. Mais ce sont des lignes qui sont un peu structurées, qui disent plus ou moins la même chose, mais en parallèle. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. « Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. » Marc 4, 22. Des contrastes. C'est quand ils sont synonymes. Ils se connectent tous, mais quelquefois, ils se contrastent aussi. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Marc 4:25. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Matthieu 12:35. Ensuite, le développement. Parfois, vous avez certaines phrases qui sont en parallèle et elles se construisent les unes sur les autres. La seconde répète une partie de la première et mène la pensée jusqu'à sa conclusion. Qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Voici donc l'image qui se développe. Voilà pour l'observation. Maintenant, ajoutons une ou deux choses à ce que nous avons déjà dit. Deuxièmement, comprendre leur habitation. Deux défis dans les évangiles qui concernent l'interprétation. Premièrement, penser verticalement. En d'autres mots, comment les évangiles présentent-ils Jésus? Et puis, nous pensons aux aspects historiques de la vie de Jésus. Deuxièmement, pensez horizontalement. Je veux vous encourager à comparer les différentes histoires racontées par les différents évangiles. Non pas dans le but de voir si les auteurs se sont trompés, mais afin de voir ce que Marc fait de différent. Pourquoi il n'a pas écrit de la même façon que Matthieu? Ou pourquoi Luc a changé tel ou tel détail au lieu de dire les mêmes choses que Marc? C'est ce que vous voulez chercher quand vous pensez horizontalement. Pour chaque histoire, chaque discours, souvenez-vous que nous réfléchissons en série, d'histoire ou en discours. Et écrivez une ou deux phrases pour répondre à la question globale. Quel est le point principal? C'est ce que vous pouvez écrire en bas d'une page comme celle-ci. Quel est le point principal de cette histoire? Quel est le point principal de cet enseignement? Ensuite, le rapporter chez vous. Quel en est le rapport? Est-il biblique? Est compatible? Remarquez comment Jésus se rapporte à la loi de l'Ancien Testament. Comment il accomplit la loi de l'Ancien Testament? Le sermon sur la montagne dans Matthieu 5:7 est un exemple. Regardez Matthieu 5:17-18 où Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ensuite, dans Matthieu 22:37-40, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Écoutez la réponse donnée par Jésus à ceux qui l'ont vu après la résurrection dans Luc 24. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Luc 24:25-27. Ceci va nous aider pour comprendre comment interpréter l'Ancien Testament à travers les filtres qui est le Nouveau Testament. Ensuite, cherchez ce qui est éternel ou multiculturel. Voyez comment Jésus enseigne ou illustre le royaume de Dieu. C'est pourquoi, quand vous regardez à nouveau vos notes sur l'Ancien ou le Nouveau Testament, la deuxième partie, le survol théologique de la Bible, vous a donné une image du royaume de Dieu au fur et à mesure de son développement. C'est très important. Finalement, cherchez l'application. Voyez le contexte élargi de ces histoires afin de pouvoir identifier les vérités intemporelles. Je vous en donne un exemple dans Marc 4, 35, 41. Rappelez-vous quand Jésus était dans un bateau avec ses disciples et une tempête se lève. Jésus dort dans le bateau. Alors les disciples le réveillent et Jésus bâille, lève ses mains vers le ciel et la tempête se calme. Les disciples sont effrayés, terrifiés, et Jésus leur demande « Pourquoi avez-vous peur ?» Ils disent « Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Marc 4, 35, 41. Maintenant, si nous lisons cette histoire sans tenir compte de son contexte, nous n'allons pas comprendre le point principal. Regardez cette histoire et celle qui suit, où Jésus délivre quelqu'un possédé par un démon. Vous voyez le pouvoir de Jésus sur la maladie. Vous voyez le pouvoir de Jésus sur la mort. Alors, ce que nous voyons ici, c'est le pouvoir de Jésus sur quatre domaines différents. Des désastres, des démons, des maladies et la mort. L'Évangile nous donne une démonstration, en fait, de l'autorité de Jésus sur toutes ces choses. Le danger, c'est que nous pouvons citer l'histoire de Jésus qui calme la tempête et dire « Peu importe les difficultés, Jésus va calmer les tempêtes dans votre vie. » Vous passez par des tempêtes, mais Jésus est là pour les calmer. Le problème, vous ne pouvez pas garantir que la tempête va s'arrêter bientôt. Vous ne pouvez pas dire aux frères et aux sœurs chrétiens dans le pays que nous avons mentionné que la persécution va s'arrêter et que tout ira mieux. Vous ne pouvez pas leur dire cela. Mais là est le point que je veux souligner dans l'histoire. Si vous considérez l'histoire telle qu'elle a été écrite, quand vous passez par les étapes de l'observation et de la compréhension, vous voyez la situation qui était dans le texte. Le problème n'était pas la tempête. Ces hommes avaient l'habitude de naviguer sur les eaux du lac. Ils avaient déjà vu des tempêtes. Alors, quel est le problème ? Jésus est endormi au milieu de la tempête. On dirait qu'il ne se soucie pas des disciples. Il dort. Alors, il le réveille pour lui dire « Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Maintenant, réfléchissez. Quel en est le rapport ? Il est tentant parfois quand nous vivons des choses difficiles, quand nous sommes débordés, désorientés et confus, de se dire « Est-ce que le Christ se soucie vraiment de nous ?» Jésus se lève, il calme les vents, les vagues, et les disciples, le regardant, se disent « Quel est donc celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » En fait, à ce moment-là, l'homme qui est devant eux a le pouvoir de faire ce que seul Dieu pouvait faire dans l'Ancien Testament. Les disciples sont de bons juifs. Ils savent que seul Dieu peut contrôler le vent et les vagues. Ils réalisent alors que devant eux, dans le bateau, se trouve Dieu dans la chair. Ils réalisent également que, quand ils sont au milieu d'une tempête, ce n'est pas que Dieu ne s'en soucie pas, mais qu'ils ont avec eux le Dieu de l'univers. Apportez ce message aux frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Vous ne pourrez peut-être pas leur dire que la tempête va se calmer bientôt, mais vous pouvez leur dire, au milieu de ta souffrance, le Dieu de l'univers est avec toi, et il t'aime profondément. C'est une vérité incroyable que nous ne comprendrons pas si nous ne passons pas par ces différentes étapes. L'application chez soi. Que dois-je faire ? Nous avons parcouru les étapes pour apprendre à lire les évangiles. Voyageant à travers le Nouveau Testament, les paraboles. Difficulté pour la lecture des paraboles. Les paraboles ne ressemblent à rien d'autre dans les Écritures. Nous avons quelques difficultés à les comprendre quelquefois à cause de la distance entre les destinataires d'origine et nous-mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Ensuite, deuxièmement, le sens profond voulu par Jésus dans la parabole. Le plus grand danger, quand on étudie les paraboles, est de commencer à les étudier en essayant de trouver un sens à tous les petits détails vus dans le texte. Un des premiers pères de l'Église, Augustin, a fait cela avec la parabole du bon samaritain. Il a tout disséqué et il a dit « Quand on parle de Jéricho dans la parabole, cela signifie la lune. L'huile veut dire la consolation et l'espoir. Le vin est une exhortation pour qu'on travaille avec un esprit soumis. L'âne employé pour porter l'homme blessé signifie le corps physique de Jésus. L'auberge représente l'Église. L'aubergiste est l'apôtre Paul. Je pense qu'il est allé un peu trop loin, Augustin. Il ne faut pas aller jusque-là dans notre analyse, mais la question est, jusqu'où faut-il aller? Quand faut-il s'arrêter? C'est une des difficultés. Directive générale pour la lecture des paraboles. Premièrement, le point principal de la parabole est très important. De nombreux chercheurs bibliques pensent que chaque parabole n'a qu'un seul point principal et qu'il ne faut pas chercher plus loin. Maintenant, je ne sais pas s'il faut vraiment s'arrêter là. Personnellement, je pense qu'il y a souvent au moins deux points principaux, peut-être même trois, tout au plus, dans la parabole. Dans ce cas, le point principal est crucial. Le but principal d'une parabole incite ceux qui l'entendent à agir d'une certaine façon. Le message est la parabole, elle sollicite une certaine réponse. Un procédé pratique pour la lecture des paraboles. Quand nous prenons notre feuille et que nous étudions les paraboles, il faut observer l'habitation. Qu'est-ce que je vois ? Lisez le passage encore et encore pour avoir la perspective des auditeurs de l'époque. Identifiez les points principaux de référence qui sont familiers à Jésus et aux auditeurs. Des choses se passent ici. C'est presque comme raconter une blague. Quand deux personnes discutent entre elles, avez-vous déjà entendu l'une des deux raconter une blague ? Vous voyez ceci chaque fois que vous allez dans un autre pays. Ils disent « Hé, j'ai une blague à vous raconter !» Et ils la racontent, mais vous ne la comprenez pas. Ce n'est pas drôle du tout. C'est parce que quelque chose se passe dans leur culture qui rend la blague drôle, mais elle n'est pas drôle dans d'autres cultures. Alors, ce que nous avons dans les paraboles est la même chose. Cela se comprenait dans la culture de l'époque, mais pas forcément dans la nôtre aujourd'hui. Il faut comprendre leur perspective, donc, et déterminer comment les auditeurs d'origine auraient répondu à la parabole. Qu'est-ce qui aurait attiré leur attention ? J'étais dans une maison musulmane il n'y a pas si longtemps. C'était au Moyen-Orient et je racontais la parabole du fils prodigue. Quand j'ai dit « Le fils est revenu et le père a couru pour l'accueillir », le père musulman s'est redressé immédiatement et m'a interrogé. « Le père a couru ?» J'ai répondu oui. Il était stupéfait par cela, car ça ne se fait pas dans sa culture à lui. Un père ne court pas pour rencontrer son fils. c'était considéré comme une inconvenance sociale à l'époque. Donc, ce sont ces choses-là qui nous aident à comprendre. La parabole du bon samaritain est un bon exemple. Quand vous lisez cette parabole, il faut voir les choses dans la perspective de l'auditeur. Ce professeur de la loi qui écoute Jésus, quand il entend parler du prêtre et du lévite qui passent, qui voient que l'homme est blessé et couché sur le bas-côté, ce sont deux prêtres religieux qui représentaient ceux qui étaient contre les rabbins. Mais Jésus s'adresse à un pharisien, un expert de la loi. Alors, le professeur de la loi écoute cette parabole racontée par Jésus. Peut-être comme une parabole qui serait racontée à nous aujourd'hui qui sommes de bons et sérieux chrétiens. Eh bien, imaginez cet homme couché sur le bord de la route et qui voit arriver l'évêque de la ville qui est pressé car il doit se rendre à une réunion. Alors il passe rapidement à côté de l'homme blessé. Ensuite, il y a quelqu'un qui arrive du CCAS, mais lui, il a un rendez-vous également. Donc, il ne s'arrête pas non plus. Vous vous dites, bien sûr, ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne sont pas de bons chrétiens. C'est exactement ce que pense le professeur de la loi. Il n'est pas surpris que le prêtre et le lévite passent sans se soucier de l'état de l'homme couché sur la route. Ils n'étaient pas des docteurs de la loi, qui, eux, étaient connus par leur préoccupation des pauvres. Ils donnaient aussi l'aumône. Ensuite, une autre personne arrive et le professeur de la loi se dit « Enfin, nous verrons que c'est la bonne personne maintenant. » Mais au lieu de dire qu'un enseignant de la loi arrive, Jésus dit que c'est un Samaritain. Et à ce moment-là, on sent la tension monter parmi les auditeurs. Le professeur s'attend à ce qu'un des siens passe. Le bon chrétien entend « Voici, vient un hanté local, connu pour son indifférence religieuse. Il s'arrête, se penche sur l'homme couché par terre, et bien qu'il n'ait jamais mis les pieds dans une église pendant toute sa vie, il aide l'homme à se lever. Il lui met des pansements, prend soin de lui. Jésus pose ensuite la question « Alors, qui est ton prochain ?» L'homme de la loi n'a même pas le droit de dire « Samaritain » à haute voix, mais il répond « L'homme qui l'a aidé ». Quel est le message pour nous ici? La parabole n'a pas été racontée uniquement pour nous dire qu'il faut aider les gens sur le bord de la route. En fait, la parabole a tourné la question pour la poser au professeur de la loi. Celui-ci a réalisé que la personne qu'il haïssait était le Samaritain. La personne qu'il aimait était le Samaritain. Il les haïssait et ils avaient besoin d'apprendre que cela ne suffisait pas d'aider les pauvres. Il fallait aller vers les gens méprisés. Votre esprit est convaincu quand vous comprenez la perspective de Jésus. C'est l'observation. Comprendre leur habitation. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand ces paraboles ont été racontées, elles n'avaient pas besoin de beaucoup d'interprétations. Elles étaient comprises par les auditeurs de l'époque. Dans le doute, cherchez le point principal. C'est ce que je vous encourage de faire. Cherchez le point principal pour chaque personnage ou groupe de personnages dans l'histoire. Dans la parabole du fils prodigue, vous avez évidemment un point avec le fils rebelle qui revient vers son père. Vous avez un point avec le père qui pardonne et aussi avec le deuxième fils, plein de ressentiment. Mais si nous essayons de trop disséquer la parabole, nous n'allons pas comprendre le message. Chaque mot n'est pas destiné à être étudié comme c'est le cas dans le passage de Galates ou de Éphésiens, où on ne peut faire des études exhaustives de mots. Ensuite, il faut ramener le message chez soi. Dans une ou deux phrases, écrivez le point principal. Quel est le point principal ou quels sont les points principaux? Les ramener à la maison, chez soi. Cherchez ce qui est biblique, ce qui est compatible. dans nos efforts de lier la parabole aux autres vérités dans les Écritures, évitez de chercher trop profondément dans la parabole. Ne vous emportez pas trop ou vous allez manquer le message global que Jésus veut vous enseigner. Maintenant, nous savons comment étudier les paraboles. Voyageant dans le Nouveau Testament, les Actes. Les difficultés pour la lecture des Actes. Ensuite, le livre des Actes, qui a son propre groupe dans le Nouveau Testament. Voici les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce livre. Est-ce que c'est un précédent ou un principe? Voici ce que je veux dire par là. Quand nous voyons l'histoire de l'Église et ce qui se passe dans le livre des Actes, nous voyons certains précédents. Soit c'est la façon dont l'Église est censée faire les choses pour tous les temps, soit c'est plutôt une image des principes que nous pouvons appliquer dans l'Église, mais pas nécessairement de la même façon. Quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, à différents moments, ils mettent leur foi en Christ. Ils partent en langue quand ils sont baptisés par l'Esprit. Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui ont l'Esprit parlent en langue? Ce sont des questions très réelles qui confrontent l'Église aujourd'hui. Quand vous examinez Actes 2, 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce un précédent? Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, parlez-vous en langue? Y a-t-il une sorte de principe qui est à l'œuvre ici? Voici d'autres exemples. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Actes 8, 15, 17. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Puis il parla encore assez longtemps, jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. On ramena vivant le jeune homme, et ce fut une grande consolation. Actes 20, 9, 12. Est-ce un précédent ou un principe? Je crois que la réponse est oui. Nous allons accepter les deux. Directive générale pour la lecture du livre des Actes. Pensez à ces directives en lisant le livre des Actes. D'abord, le livre des Actes a des suites. Rappelez-vous qu'il a écrit le livre des Actes, Luc. Luc a également écrit l'Évangile selon Luc. C'est une histoire avec un but précis. Il raconte cette histoire pour montrer le progrès de l'Évangile et pour que l'Évangile continue à progresser. Son but n'est pas de répondre à toutes les questions que nous pourrions avoir sur l'apôtre Paul ou sur l'Église. Il montre le progrès de l'Évangile dans l'Église. Vous avez ces thèmes centraux. L'Évangile, le Saint-Esprit, l'Église et le monde avec un thème global. L'Esprit-Saint, qui donne sa puissance à l'Église pour proclamer l'Évangile de Jésus-Christ au monde entier. Beaucoup d'entre vous savent que le livre a une structure géographique et thématique. Géographique. Actes 1, 7. Proclamation de l'Évangile à Jérusalem. Actes 8, 9 jusqu'à 10. Proclamation de l'Évangile en Judée et dans la Samarie. Actes 10, 28, proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes est un modèle et il nous montre comment Dieu veut que l'Église prêche l'Évangile dans le monde entier par la puissance du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que chaque chose doit être considérée comme un précédent. L'Église de Jésus-Christ a reçu l'ordre de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est démontré dans le livre des Actes. Un procédé pratique pour la lecture du livre des Actes. Observez leur habitation. Qu'est-ce que je vois ? Voici plusieurs choses spécifiques pour le livre des Actes. Posez-vous des questions sur des personnages. Il y a des personnages négatifs et d'autres qui sont positifs dans le livre. Posez des questions sur les discours. Les discours représentent à peu près un quart à un tiers du livre et ne sont pas toujours des comptes rendus in extenso. Ce n'est pas comme si Luc était assis là avec un magnétophone en écoutant le discours et ensuite il pouvait tout écrire mot par mot. Luc n'était même pas présent à certains discours, et honnêtement, certains n'ont duré que 60 secondes, et un prédicateur ne peut pas parler pour 60 secondes seulement. Ce n'est pas possible, donc. Nous savons que ces discours sont importants, mais ne sont pas des comptes rendus mot par mot. Ensuite, posez-vous des questions en ce qui concerne les commentaires de Luc. Quand Luc dit « Le but est de montrer telle ou telle chose », alors faites attention à ce qu'il dit. Comprendre leur habitation. Cherchez l'objectif de Luc dans chaque épisode. Non seulement ce qu'il dit, mais pourquoi il le dit. Par exemple, cherchez des modèles et des thèmes à travers le livre. J'ai mentionné plus tôt qu'il dit 8 fois qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour la proclamation de la parole. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite. » afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Acte 2, 17, 28. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 31. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Actes 8, 15, 17. Ananias partit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Actes 9, 17, 20. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Actes 10, 44, 46. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Actes 19, 6. La proclamation de l'Évangile à travers le monde. Ce sont des modèles donnés par Luc. Vous pouvez retourner les regarder dans le livre des Actes. Regardez chaque épisode, chaque histoire pour les résumer en disant « Quel est le point principal de ce texte ?» Par exemple, regardez Actes 6, 1, 7. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi, Actes 6, 1, 7. Il y avait une division dans l'Église parce que certaines des veuves étaient oubliées dans la distribution journalière de la nourriture, et il y avait du mécontentement. Ils ont donc formé une équipe avec des hommes tels qu'Étienne, qui pouvaient aider pour que les apôtres puissent passer leur temps dans la prière et la prédication de la parole. Par contre, le but de cette histoire n'est pas de nous indiquer comment exactement notre Église doit être organisée. On essaie de préparer le terrain pour la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre par l'Église en Actes 1, 7. Éventuellement, Actes 8. Nous devons chercher le but principal. Pourquoi Luc nous donne-t-il cette histoire? Essaie-t-il de nous donner une théologie sur l'organisation de l'Église? Ou est-ce qu'il nous montre plutôt comment avance l'Église quand tout le monde travaille ensemble? Écrivez le point principal de l'épisode dans une ou deux phrases, mais soyez certain que votre interprétation suit le message du livre des Actes. Ensuite, le rapporter chez soi pour le mettre en pratique dans votre vie. Quand vous cherchez l'éternel et le multiculturel, et cela revient à ce que nous venons de dire, il faut filtrer toute implication du livre des Actes en cherchant à comprendre l'intention de Luc. Vous voyez Philippe qui parle à l'eunuque éthiopien. et qui se fait baptiser dans la rivière, certains posent la question : comment a-t-il été baptisé ? Est-ce que c'était par immersion ? Philippe a-t-il simplement mis un peu d'eau sur sa tête ? Ou est-il allé chercher une tasse pour l'asperger ? Comment cela s'est-il passé ? Alors, nous commençons à débattre ces possibilités. Combien d'eau faut-il pour que le Saint-Esprit vienne ? Vous avez aussi des gens qui reçoivent le Saint-Esprit alors qu'ils avaient déjà mis leur foi en Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Le but de Luc n'est pas de nous donner un traité théologique sur le déroulement d'un baptême ou à quel moment il faut faire telle chose. Il nous montre clairement, dans le chapitre 8 du livre des Actes, que l'Évangile se propage parmi des Samaritains et les eunuques. Ce sont deux groupes qui étaient haïs, car ils étaient considérés comme impurs selon les lois juives. L'Évangile est prêché à un nouveau groupe de personnes, et le point principal de ce chapitre est clair. Apportez l'Évangile également aux gens qui ne vous ressemblent pas. Apportez l'Évangile à ceux qui sont difficiles à convaincre, là où personne ne prêche l'Évangile. C'est ce que le livre des Actes essaie de nous dire. Nous passons du temps dans la discussion des choses qui ne nous édifient pas. Mais ce n'est pas cela le point principal. Cherchez l'application pour la mettre en pratique dans votre vie personnelle. Maintenant, nous savons comment étudier le livre des Actes. Voyageant dans l'Ancien Testament. Narration. Difficulté pour la lecture des narrations de l'Ancien Testament. Ensuite, regardons les narrations de l'Ancien Testament. Disons que nous nous trouvons en Amérique du Sud et que nous allons traverser l'océan pour nous trouver en Asie. Nous allons atterrir dans un royaume différent qui nous sépare encore davantage de notre propre culture. Un royaume qui existait avant la venue du Christ. Les narrations dans l'Ancien Testament. Il y a une variété historique ici. 40% de l'Ancien Testament est de la narration. Dans les livres tels que la Genèse, Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, et 1 de Rois et 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Daniel, Jonas et Agée. C'est la forme littéraire la plus répandue dans la Bible et elle contient une variété d'histoires. Deuxièmement, il y a une variété de personnages, toutes sortes de gens, avec une variété de défis également. Nous voyons Abraham qui négocie avec Dieu sur le nombre de personnes juste qu'il faut avoir dans une ville pour qu'elle soit épargnée. Nous voyons l'âne de Balaam qui parle à son maître qui lui répond. C'est un peu bizarre comme histoire, mais il y en a encore d'autres. Directive générale dans la lecture des narrations de l'Ancien Testament. Dans la plupart des cas, les narrations ne sont pas des allégories remplies de sens cachés. Quand Abraham cherche une femme pour Isaac, nous ne faisons pas un parallèle avec Christ qui prend pour épouse l'Église par le biais du Saint-Esprit. Il faut lire l'Ancien Testament en tant que narration sans arrière-pensée, sans chercher des allégories ou des sens cachés, à moins que le texte n'indique un parallèle avec le Nouveau Testament. Deuxièmement, le but n'est pas d'enseigner des leçons de morale. Souvent, vous entendez des gens dire, après avoir lu une histoire de l'Ancien Testament, « Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Que faut-il faire ou ne pas faire suite à cette lecture ?» Ce n'est pas le but principal des narrations. Nous allons étudier cela d'une façon un peu plus en profondeur, mais à moins que l'auteur ne dise précisément que la leçon est pour nous. Ne cherchons pas une leçon de morale ici. Troisièmement, les textes n'enseignent pas une doctrine. L'histoire de David et de Bathsheba n'enseigne pas la doctrine de la pureté sexuelle. Au lieu de cela, c'est une illustration. Aucun doute là-dessus. Une illustration de l'immoralité sexuelle et les effets de l'immoralité sexuelle. Laissons l'enseignement de la doctrine à d'autres textes dans les Écritures et les illustrations à ces histoires. Finalement, les narrations de l'Ancien Testament ne sont pas centrées sur l'homme. Nous devons nous rappeler que Dieu est le héros de ce livre. Vous cherchez le chapitre 39 de la Genèse et vous lisez l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar et vous partez de l'étude biblique en disant que vous avez appris qu'il faut être comme Joseph et fuir la tentation. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas bien de fuir la tentation. Mais quand vous regardez ce chapitre 39, vous voyez qu'une phrase en particulier est mentionnée 4 fois. 2 fois au début du chapitre et 2 fois à la fin. Le Seigneur était avec Joseph. Dieu est le héros de Genèse 39 et l'histoire nous montre ce qui se passe quand Dieu est avec nous et comment la présence de Dieu avec nous peut affecter notre vie. Nous avons un livre centré sur Dieu. Nous lisons des histoires qui sont centrées sur Dieu. Nous devons faire attention parce que nos idées sur Dieu vont être défiées quand nous lisons les histoires de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons garder Dieu dans une jolie petite boîte théologique et concise quand nous voyons les choses qui se passent dans l'Ancien Testament. Nous devons être ouverts à la description de Dieu que nous voyons à travers toutes les Écritures. En général, les narrations de l'Ancien Testament sont des histoires racontées avec un but précis. Souvenez-vous qu'elles ont été transmises à un peuple spécifique, un public choisi. Ce sont des histoires de ce qui s'est réellement passé, pas ce qui aurait dû se passer chaque fois. Cela nous ramène à une composante morale. Toutes les narrations ne sont pas là pour nous donner de bons exemples. Souvent, c'est le contraire. L'Ancien Testament est très clair et parle des problèmes et des défauts de certains des personnages qui s'y trouvent. Ce ne sont pas des exemples de ce qui aurait dû se passer ou devrait se passer chaque fois. On raconte ce qui est arrivé. Finalement, les histoires sont sélectives et incomplètes, de la même façon que dans les évangiles. Tous les détails ne sont pas donnés dans ces récits. Un procédé pratique pour la lecture des narrations de l'Ancien Testament. Alors, comment étudier les 4 questions principales quand vous étudiez les narrations? D'abord, observez leur habitation. Lisez le passage avec attention. Ne sautez pas les parties difficiles. Lisez chaque détail. Cherchez les réponses aux 5 questions de base. Vous connaissez l'intrigue de l'histoire. Vous posez des questions. Quoi? Comment? Vous cherchez l'ordre des événements. Généralement, dans chaque histoire de l'Ancien Testament, il y a un conflit. Il y a un développement qui se termine par un conflit et ensuite, il y a une résolution. Alors, cherchez les différentes parties de l'intrigue. Deuxièmement, le scénario. Où et quand a eu lieu cet événement? Concentrez-vous sur l'ordre et le lieu. Troisièmement, les personnages. Qui sont-ils? Les personnages dans les narrations de l'Ancien Testament sont centraux et très importants. Le développement des personnages est également très important dans ces narrations. Cherchez la comparaison, le contraste. Si vous regardez la comparaison dans les passages qui parlent de David et de Saül, on voit beaucoup de contrastes. Quatrièmement, il y a aussi le dialogue. Souvent, le narrateur, l'auteur biblique, racontera l'histoire et continuera par un dialogue. Ce dialogue est là justement pour nous aider à comprendre ce qui vient d'arriver. Donc, lisez soigneusement le dialogue. Cinquièmement, le narrateur, celui qui est omniscient, il est partout. Il connaît tous les détails. Quelquefois, il donne des sommaires ou des déclarations de jugement. Et je veux vous encourager aussi à chercher l'ironie. Même si un événement semble être bon, il se peut que le narrateur communique le contraire. Un exemple. Regardez 1 Roi 10-11. Vous voyez comment l'auteur décrit Salomon. Il raconte tout ce que Salomon a fait, tout ce que Salomon possède. On dirait que Salomon est exalté ici, mais quand nous arrivons à 1 roi 11, 6, 9, le narrateur dit « Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement les voies de l'Éternel, comme son père David. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. » Puis, vous arrivez au chapitre 6, verset 38 de 1 roi. Par exemple, « Et le narrateur dit qu'il a pris 7 ans à Salomon pour la construction du temple. Et la 11e année, au moins de Boul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit en 7 ans. On dirait que c'est une bonne chose, mais le verset suivant nous raconte que Salomon a pris 13 ans pour construire sa propre maison. Quant à sa maison, Salomon l'a bâtie pendant 13 ans et il acheva ainsi toute la cité royale. 1 roi 7.1. 7 ans pour faire le temple de Dieu et 13 ans pour faire sa propre maison. Est-ce une bonne chose? Cherchez à savoir comment l'auteur raconte l'histoire. C'est l'observation. Comprendre leur habitation. Qu'est-ce que cela veut dire? Interpréter chaque narration de l'Ancien Testament à 3 niveaux. C'est ce qui se passe exactement dans l'histoire à ce moment-là avec ces personnes. Le 2e niveau est l'histoire nationale parce que cette histoire fait partie d'un tout que Dieu fait avec le peuple d'Israël, la nation d'Israël, ce que Dieu est en train de faire d'une façon globale. Ensuite, le 3e niveau est l'histoire rédemptrice qui prend en compte ce que Dieu fait. Souvenez-vous que nous en avons parlé lors de notre étude sur l'Église secrète de l'Ancien et du Nouveau Testament. Toute la portée future de ce que Dieu fait. Prenez l'histoire d'Abraham et d'Isaac que nous avons mentionné tout à l'heure en Genèse 22. Historiquement, c'est un homme qui prend son fils avec lui et qui se promène dans la montagne. Dieu communique avec lui et pourvoit un bouc en sacrifice. C'est l'histoire individuelle. Maintenant, passons à l'histoire nationale. La descendance promise d'Abraham va être sacrifiée, lui et Dieu pourvoient, pour la préservation de son peuple, la nation d'Israël. En ce qui concerne l'histoire rédemptrice, nous avons une description d'un Dieu qui pourvoit un agneau dans le but de sauver son peuple. Vous voyez ces 3 différents niveaux. Vous pouvez regarder l'histoire de David et de Goliath de la même façon. L'histoire individuelle, l'histoire nationale et l'histoire rédemptrice. Regardez attentivement le contexte littéraire. Si vous étudiez Abraham, quelque chose lui est arrivé. Lisez Genèse 12 à 25, d'un seul coup pour comprendre comment ce récit s'inscrit dans l'histoire entière. Lisez aussi, au moins, le chapitre qui précède et le chapitre qui suit ce passage. Évitez les erreurs usuelles dans l'interprétation des narrations de l'Ancien Testament. Premièrement, les allégories. Nous en avons déjà parlé, c'est le fait d'essayer de trouver un sens caché au texte. Deuxièmement, décontextualisation, qui veut dire qu'on ne tient pas compte du contexte historique, culturel. Il faut faire des efforts pour comprendre le contexte autant que possible. Troisièmement, sélectivité. Choisissant les parties préférées de l'histoire. J'aime quand Abraham fait telle chose ou bien j'aime la façon de David quand il fait ceci. Prenant cela comme point principal, il ne faut pas étudier de cette façon. Regardez tout. Quatrièmement, moralisation. En se demandant quelle est la leçon morale de l'histoire après chaque narration? Cela ne veut pas dire que certains récits ne peuvent pas nous apprendre ou montrer quelque chose, ne peuvent pas illustrer une leçon morale, mais ce n'est pas le but primaire. Cinquièmement, personnalisation. Par cela, Je veux dire le fait de penser que ces récits vous concernent personnellement. C'est une façon égoïste de lire la Bible. On est centré uniquement sur soi. Ces narrations ne vous concernent pas personnellement. Vous ne pouvez pas partir après une étude en disant « L'histoire de l'âne de Balaam me rappelle que je parle trop » ou bien « L'histoire de la construction du temple est la parole de Dieu qui nous indique qu'il faut construire une église. » C'est abuser de la narration de l'Ancien Testament et manquer le but du Nouveau Testament. Sixièmement, une appropriation fausse. Une mauvaise application du texte dans notre culture contemporaine. C'est ce que je veux dire ici. Voici le meilleur exemple. Voici la toison de Gédéon. Je vais mettre une toison, dit Gédéon. Le seul problème, c'est que cet acte a montré qu'il n'avait pas beaucoup de foi. Ce n'était pas une preuve de sa grande foi. Donc, ce n'était pas une bonne façon d'agir pour chercher la volonté de Dieu. Septièmement, une combinaison fausse. Prendre deux parties de l'histoire pour les associer ensemble alors que l'auteur ne les a pas liées dans son récit. Huitièmement, redéfinition. Changer l'histoire pour lui faire dire ce que vous aurez souhaité qu'elle dise. Neuvièmement, imitation. C'est le fait de lire les narrations pour trouver la permission et ou l'obligation d'agir de telle ou telle manière. Voici mon défi pour vous. Ne lisez pas les narrations de l'Ancien Testament avec l'approche d'un singe qui imite ce qu'il vous voit faire. Ou, s'il le fait, alors je peux aussi le faire. Ce n'est pas ce qui est enseigné ici. Pour chaque histoire, pensez histoire. Nous avons pensé paragraphe. Nous avons pensé discours, enseignement. Maintenant, pensez chaque histoire ou chaque série d'histoires dans la narration de l'Ancien Testament. Écrivez dans une phrase ou deux la réponse à la question principale. Que veut dire cette histoire ? Ensuite, il faut la raconter à la maison, chez soi. C'est important de comprendre cela, très important. Cherchez ce qui est biblique, ce qui est compatible. Nous devons interpréter les narrations de l'Ancien Testament en utilisant les filtres des enseignements du Nouveau Testament. Voici comment faire. D'abord, vous identifiez les principes intemporels et théologiques de l'Ancien Testament dans son contexte. Dans ce contexte, il y a la situation d'origine. Deuxièmement, filtrez ce principe en utilisant les enseignements du Nouveau Testament. Nous ne lisons pas l'Ancien Testament comme les Hébreux le faisaient à l'époque. Nous lisions l'Ancien Testament à travers la grille du Christ. Qu'y a-t-il dans le Nouveau Testament qui change notre façon de lire l'Ancien ? Posez-vous ces deux questions. Est-ce que le Nouveau Testament ajoute quelque chose à ce principe ? Ou est-ce qu'il le modifie ? Vous avez entendu qu'on a dit « Mais moi, je vous dis ». C'est ce que fait Jésus. Il a changé notre façon de comprendre certaines de ces descriptions que nous avons vues dans l'Ancien Testament. Donc, lisez les textes à travers le filtre du Nouveau Testament. Cela veut dire que, quand vous en arrivez à ce point, vous êtes en train d'étudier un texte de l'Ancien Testament. Et alors, vous faites un pas de plus. Vous prenez un principe théologique de l'Ancien Testament afin de comprendre la vérité intemporelle et vous le filtrez à travers le Nouveau Testament. Maintenant, nous savons étudier 40% de l'Ancien Testament.
Vous venez d'écouter un message de la série d'études de la Bible intitulée « L'Église secrète » du Dr David Platt, pasteur de l'Église Brook Hills aux USA.